avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. C'est la rentrée pour l'Observatoire sociopolitique diocésain. C'est avec plaisir que nous retrouvons Olivier Drapé. Bonjour Olivier.
Oui, c'est avec plaisir que je retrouve les auditeurs de Radio Lapourdie. Je vais vous parler non pas de l'action du gouvernement de M. Barnier, c'est prématuré. Je vais en revanche m'appesantir un petit peu pour une fois sur des considérations qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas sociétales, mais plutôt économiques et financières. Après tout, c'est de saison car le gouvernement prépare le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'année 2025. Voilà. Il le prépare à partir d'un certain bilan ce bilan est certainement un peu problématique. On va bien entendu en parler. En tout cas, quel est l'état actuel des finances publiques? C'est la question qu'on peut se poser. Il y a en effet clairement différentes interprétations ou visions du budget de l'État. On peut le constater lorsque on entend par exemple Éric Coquerel, qui est député LFI, mais qui est surtout président de la commission des finances, qui nous dit « la France n'est pas en faillite, on dramatise le déficit, on nous menace de l'intervention du FMI pour nous faire avaler leur politique d'austérité ». Alors que par exemple un journaliste comme Franck-Olivier Gisberg, sur Europe 1, je crois, il y a quelques jours, déclare « la France est dans la situation de la Grèce il y a quelques années », c'est-à-dire quasiment en faillite. Alors, où en est-on? Mais je crois que, malheureusement, d'une certaine manière, M. Charles de Courson, qui est rapporteur général, lui, de la Commission des finances, a raison lorsqu'il nous dit « la situation des finances publiques n'est pas préoccupante, elle est très grave ». Très grave, pour ne pas dire catastrophique. Pourquoi ? On va faire un certain nombre de constats chiffrés qui, je pense, sont importants à propos du déficit des dépenses publiques. Le déficit des dépenses publiques est actuellement de à peu près 150 milliards d'euros. Alors, comment appréhender ces chiffres ? Eh bien, tout simplement, et en arrondissant un petit peu, on doit constater que le niveau des dépenses annuelles de l'État est de 450 milliards d'euros par an, alors que les recettes sont de 300 milliards d'euros par an, d'où un déficit des dépenses publiques qui représente à peu près 6% du produit intérieur brut de 150 milliards d'euros. Bon, c'est deux fois plus qu'en 2017 où ce taux était de 3% du PIB. C'est ce qui explique l'importance de la dette publique de l'État. La dette publique est de 3 200 milliards d'euros, ce qui représente donc 110% du produit intérieur brut. Ça veut dire que plus importante que la richesse produite chaque année en France. Plus importante parce que supérieure à 100% du PIB, à peu près 110% du produit intérieur brut. Ça peut paraître très abstrait, mais on peut le dire autrement. Un enfant qui naît aujourd'hui ou un habitant de notre pays a d'ores et déjà sur les épaules 60 000 à peu près euros de dette. 60 000 euros de dette par personne. Et contrairement à l'impression qu'on a pu avoir à cause de la politique de la planche à billets, cette dette, elle devra un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, être remboursée par nous-mêmes et par les générations qui vont suivre. Donc oui, il y a un problème majeur, d'autant plus important que la charge des intérêts de la dette, non pas le remboursement du capital de la dette, je parle simplement de la charge que représente le remboursement annuel des intérêts de la dette, représente 50 milliards d'euros en 2024, représenteront à peu près 57 ou 58 milliards d'euros en 2025. C'est le deuxième poste du budget de l'État. C'est aussi important que le budget de la Défense nationale. Donc on réalise effectivement qu'il y a un gros problème, que peut-être une prise de conscience est en train de s'opérer, mieux vaut tard que jamais, en tout cas que la France vit bien au-dessus de ses moyens, ce qui ne peut naturellement pas durer indéfiniment. Alors, quelles sont les causes? Il y a toutes sortes de causes. Il y a des causes conjoncturel. Hein. Il y a eu, bien sûr, la crise des gilets jaunes et donc des mesures d'urgence qui ont été édictées. Il y a eu, bien sûr, la crise sanitaire, le confinement, le coût que ça a représenté pour amortir le choc auprès des entreprises, notamment. Il y a, bien sûr, le problème de l'inflation qui a ressurgi. Le gouvernement a essayé de limiter un peu la casse, au moins pour... certaines parties de la population, il y a la crise ukrainienne avec un certain coût, etc. Il y a des causes conjoncturelles, il y a même des décisions certainement discutables qui ont été prises depuis un certain nombre d'années et qui n'auraient peut-être pas dû être prises. Les réductions d'impôts, Charles de Courson souligne qu'elles ont représenté depuis 7 ans 60 milliards d'euros, alors au profit parfois des particuliers, par exemple la taxe d'habitation qui a baissé ou qui a été supprimée et qu'elle a aussi concerné des entreprises, l'impôt sur les sociétés qui a diminué. N'empêche, dans le contexte que je viens de rappeler, ces réductions d'impôts représentent tout de même un poids énorme. Donc il y a des causes un peu conjoncturelles, on va dire, ou politiques. Et puis il y a des causes plus profondes. Depuis 40 années à peu près, on observe en Europe, et peut-être plus particulièrement en France, un processus de désindustrialisation. C'est-à-dire effectivement que le dogme, en quelque sorte, car c'en est un dogme absolu qu'il est difficile de remettre en cause et qui pourtant mériterait d'être nuancé, du libre-échangisme mondial, eh bien, a abouti à des délocalisations. Il y a une paupérisation, en fait, d'une partie de la population. Alors, il y a un ouvrage qui l'explique pas mal, d'un économiste qui s'appelle Olivier Piacentini. Je lis quelques extraits intéressants. « C'est l'abattement des barrières douanières à l'orée des années 90, écrit-il, qui offrit aux pays émergents l'accès au marché de consommateurs prospères du Nord, sans que la réciprocité fonctionne vraiment, faute de consommateurs au Sud. » De facto, les pays occidentaux muèrent en zone de consommation. Toute leur économie, de moins en moins axée sur la production, reposa sur la consommation. Chaînes de distribution, grandes surfaces, prospérèrent pour écouler des produits désormais fabriqués sous d'autres cieux. Dès lors, au fur et à mesure que le mirage de la croissance partagée et pilotée par les pays riches se dissipe, l'inquiétude, voire la colère, monte graduellement dans le monde occidental. Des populations privées d'emploi se paupérisent pour longtemps. À la déchéance des classes populaires s'ajoute bientôt le déclassement des classes moyennes. Et pour assurer la survie de populations appauvries toujours plus nombreuses, les États-providence, jadis abondés par les richesses accumulées, n'hésite pas à s'endetter. Il faut absolument maintenir le train de vie des Occidentaux pour que la machine économique mondiale tourne. Avant d'être soulagé par la baisse des prix, le consommateur est gravement appauvri par la perte ou la précarisation de son travail, effet des délocalisations que le libre-échangisme multiplie. Et même, pour tous ceux qui n'ont pas perdu leur emploi, l'existence en Occident d'un chômage de masse et d'une précarisation massive du travail pèse lourdement sur le salaire de tous. Quand le consommateur occidental est, lui, pour le moment irremplaçable, incontournable, mais comment donc faire consommer les gens privés de salaire par la dette ? Ainsi, toute une civilisation brade son héritage. Donc voilà ce qu'écrit ce monsieur. Et cela me paraît effectivement assez bien vu. Il y a une cause profonde depuis 40 ans qui est que nous ne produisons plus de richesses, nous nous contentons de consommer, quitte à nous endetter, que ce soit au niveau des ménages ou au niveau des États. Donc ça fait partie des causes. Maintenant, quelle perspective et quelle solution ? Solution, le mot est un peu fort. Un endettement supplémentaire, en effet, une aggravation de la dette, c'est pourtant la voie que nous suivons actuellement, serait à terme suicidaire. Alors il y a une seconde perspective, une hausse d'impôts. Après tout, on sait que Michel Barnier a récemment déclaré, le 17 septembre je crois, qu'il envisageait une plus grande justice fiscale, c'est-à-dire une augmentation des impôts pour les plus riches ou pour les entreprises qui font des profits suffisants. N'empêche, il est probable que les classes moyennes elles-mêmes n'échapperont pas à une hausse d'impôts, mais cette solution d'une hausse de la fiscalité, malgré tout à des limites, parce que en France en particulier, le taux de prélèvement obligatoire représente déjà plus de 46% du produit intérieur brut, ce qui est effectivement une limite qu'on pourra difficilement dépasser. Alors, il y a donc peut-être une troisième solution qui pourrait être envisageable, c'est une réduction des dépenses publiques. Elle est même indispensable, elle est inévitable, elle est inéluctable, qu'on le veuille ou non. On peut considérer que le gouvernement mènera nécessairement, que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, dans les mois ou les années qui viennent, une politique de réduction drastique probablement, au nom de la lutte contre l'assistanat des dépenses publiques, qui sera malheureusement, qu'on le veuille ou non, une politique d'austérité.
Merci beaucoup Olivier Drapé pour cette analyse.
Avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.